Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, 10h20, nous sommes en direct sur Territoria et sur IMO. On bascule d'ailleurs avec nos amis qui sont pas très loin d'ici, au ministère du Logement, où nous avons un plateau avec Radio Territoria. Ils nous laissent un peu la main. On est ravis d'être avec vous pour cette seconde journée du congrès de l'Union sociale pour l'habitat, appelé aussi congrès H-Expo. C'est une ville dans la ville, hein, c'est absolument incroyable. C'est presque chez IKEA. Vous entrez par un hall et puis vous sortez par un autre et vous arrivez enfin sur votre plateau. On est ravis d'être avec vous. On va parler d'un sujet extrêmement important et fondamental, c'est le logement des personnes de la fonction publique, des agents publics. Et on a réuni des personnes autour justement pour évoquer ce sujet. Il est d'ailleurs avec nous puisqu'il a été nommé récemment délégué interministériel pour le logement des agents publics. C'est un sujet crucial forcément pour le bon fonctionnement du pays. C'est Guillaume de Croix. Bonjour Guillaume.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Je suis ravi de vous avoir sur le plateau et merci de vous prêter au jeu de l'interview. Vous avez été donc récemment nommé sur ce sujet qui est vraiment crucial et vous allez vous atteler à une tâche qui est immense. On va en parler avec vous, avec deux grands professionnels de l'immobilier, une grande dame de l'immobilier qui est avec moi et dont je ne vais pas bouder le plaisir de la présentation. C'est Karine Julien-Caïn qui est avec moi et qui est présidente de Polylogie. Bonjour Karine.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau, ainsi que Philippe Petiot. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Voilà, vous dirigez Procivis pour la Nouvelle-Aquitaine, donc un enjeu aussi extrêmement important. Vous êtes quand même aujourd'hui l'un des personnes qui sont à même justement d'évoquer ce sujet. On va commencer par vous, Guillaume, si vous voulez bien. Vous avez été donc récemment nommé pour un sujet qui est un sujet crucial, on l'a vu. On n'y pense pas comme ça naturellement. On parle du logement des agents publics. Ils sont aussi eux-mêmes soumis à la même pression sur le marché pour trouver un logement. Quels sont vos objectifs et quelles ont été ou quelles seront vos premières actions?
Alors, il faut peut-être un petit peu rembobiner la raison d'agir de la part de l'État. Il y a eu une grande enquête qui s'appelle Fonction publique plus, qui comportait 14 chantiers. Et il est apparu sur 10 000 répondants que le sujet logement était vraiment prégnant pour les agents publics. Alors, de toutes les fonctions publiques, fonctions publiques territoriales, hospitalières et
bien
État. Le sous-jacent de cette problématique, il tient en trois mots, c'est simple, hein, c'est attractivité. Pourquoi rentre-t-on ou pas dans la fonction publique? Mobilité, est-ce que je quitte l'endroit où j'ai été nommé ab initio pour aller travailler ou retourner dans mon pays? Et puis, troisième chose, fidélité. On a un taux de départ, notamment dans le monde hospitalier des cadres, qui est assez important. Et donc, si vous voulez, en creux de cela, il y a une forme d'effondrement silencieux de la fonction publique. Et vous le voyez, quand vous vivez au quotidien, vous attendez longtemps aux urgences. C'est un vrai sujet d'effondrement silencieux. Vos enfants ne trouvent pas de professeurs. Il y a eu 1000 candidats qui ne sont pas venus au concours. Ouais. Et donc, c'est votre enfant qui attend. Donc, vous voyez, c'est pas un sujet anodin et ce n'est pas un sujet strictement logement. C'est un sujet sociétal qui est derrière.
Ouais. Mais le logement est une décomposante, effectivement, de cette évolution.
Absolument.
Qui est, à mon avis, délétère, bien évidemment. Alors, moi, je suis très surpris de ce que vous dites parce qu'ils viennent carrément pas au concours.
Exactement. Exactement.
Alors qu'à l'époque, moi, je suis d'une génération où, voilà, c'était. Voilà.
1 pour 10 pour les. Pour
exactement. Les profs, ouais. Mais on a connu cette époque.
Alors, quel est mon objectif par rapport à ça? Oui. Si vous voulez, on a travaillé avec la direction générale de l'administration et la direction de l'habitat, d'urbanisme et des paysages pour dire qu'est-ce qu'on va monter. Il ne s'agit pas de créer une énième grosse structure, mais plutôt une task force, une capacité d'agir et de mettre en relation la demande et l'offre. Mmh. D'où l'idée de cette délégation. Alors, quand on me demande ce que je viens faire, je le situe en trois mots. C'est informer. Aider et loger. Informer, nous travaillons à ce qu'il y ait un hub ou un point de rendez-vous commun, c'est un portail numérique que je suis en train de bâtir, qui est prêt, qu'on va lancer à la rentrée à la faveur des décisions politiques, pour que tous les agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, se disent « Ah, j'ai un sujet logement, j'ai un besoin d'aide financière pour une accession à propriété, je vais là ». Donc ça, c'est un premier travail.
Donc vous allez rassembler une offre à travers ce portail ?
Absolument.
C'est quoi ? C'est un guichet unique ? C'est quoi l'idée ?
C'est un hub qui va renvoyer à d'autres portails.
D'accord. Et mon deuxième... D'où l'intérêt de faire des partenariats avec des grands groupes pour les ramifier et donner cette information.
Exactement. Parce que derrière le informer, c'est aider.
Aider,
c'est mon travail de rentrer en relation avec toute la place, que ce soit la place bancaire, la place des promoteurs sociaux, des promoteurs de logements privés, pour mettre en relation ces univers-là qui ne se connaissent pas ou qui n'ont pas conscience du besoin. Il y a un vrai sujet d'identification. Et puis loger, c'est le dernier volet de cela. Alors, il y a le 5% préfectoral pour les agents de l'État, mais il y a les agents hospitaliers qui ont des difficultés avec des capacités de réservation de logement. Enfin, c'est notre tambouille du monde HLM.
Ainsi que de l'éloignement du logement par rapport à leur lieu de travail.
Ah, il y a un vrai sujet.
Qui est un vrai sujet délétère. On l'a vu, par exemple, en état Covid. En période Covid, les professionnels de l'immobilier se sont mobilisés pour prêter du logement au personnel hospitalier qu'on a appelé de première ligne, justement, et on s'est rendu compte, on a pris conscience à ce moment-là qu'il y a des personnes qui mettaient jusqu'à 1h30, voire 2, pour aller et retour.
Bien sûr. Alors, par rapport à ce sujet-là, on a lancé des diagnostics territoriaux pour connaître la sociologie des agents publics, pour connaître les transports, pour connaître les besoins en dynamique future et y répondre. Il y a un sujet qui me tient
à cœur. Des travaux qui n'avaient jamais été faits préalablement.
Ça existe au niveau départemental, mais la maille est trop large, donc on ne sait pas dire sur des micro-zones où sont les besoins. Et il y a un autre sujet qui me tient à cœur, puisque je viens de la direction de l'immobilier de l'État, qui est rattachée à Bercy, c'est la mobilisation du foncier pour construire du logement pour les agents publics. Voilà. Donc, je le dis pour deux raisons. C'est parce que c'est des sujets qui intéressent la place, qui, évidemment, seront des signaux extrêmement forts pour les agents, mais aussi pour tous les promoteurs sociaux, parce qu'on voit bien que c'est aussi une des difficultés, l'accès au foncier. Alors, ça ne sera pas énorme, ça ne sera pas monstrueux, mais au moins, le signal est là. Il y a une volonté qui est tout à fait affichée. C'est dans le cadre de ma lettre de mission que de mobiliser ce foncier. Alors, maintenant que je l'ai dit, la mise en application est horriblement complexe, juridique, les montages d'opérations, budgétaires...
Si on est ici, à H-Expo, avec nos partenaires, nos amis de Procivis, c'est parce que vous avez signé un partenariat.
Absolument.
Avec ce réseau, comme certainement vous en signeriez d'autres, avec d'autres organisations. Le but, c'est quoi et pourquoi vous avez choisi Procivis ?
Alors... je voudrais remercier Procivis qui, en fait, a pris l'initiative de la prise de contact. Et ça, c'est quelque chose dont je me souviendrai parce que quand on démarre et qu'on n'existe pas très officiellement, les premiers qui font confiance, c'est ceux qui nous aident à démarrer. La deuxième raison, c'est que Procivis, c'est tout le spectre de l'offre de logement, donc du social, de l'intermédiaire, du privé. C'est également une présence sur tout le territoire. Et puis, c'est des personnes qui, tout de suite, ont compris l'enjeu. Et il se comprend. En face, vous avez des agents publics avec un revenu sûr et régulier. Pas très élevé, comme me diraient mes camarades partenaires sociaux, mais un revenu régulier. Et ça a de l'enjeu pour vous, parce que c'est un critère de stabilité.
Pour les bailleurs privés, c'est sûr qu'il n'y a
absolument.
Pas... Voilà, il n'y a pas plutôt. Aujourd'hui, on a des mécanismes de garantie, vous savez, de garantie de loyer, qui s'est mis en place. Et l'un des critères principaux, c'est la solidité contractuelle du travail, qui assure des flux et des revenus. Justement, on va faire circuler la parole. Je vais poser la question à Philippe. Vous qui couvrez l'Aquitaine, on voit bien que... Alors, c'est des zones ultra tendues. On le voit bien. Il y a des îlots absolument incroyables. Et c'est vrai que ces personnes-là, enfin, les personnes de la fonction publique, dans le spectre général, c'est pas des personnes dont on pensait qu'ils ont des difficultés, mais en fait, ils ont les mêmes difficultés d'accès au logement. C'est quoi les enjeux en matière de logement des fonctionnaires? Et qu'est-ce que vous... Parce que vous connaissez bien les élus de la région Aquitaine. Qu'est-ce qui vous remonte comme info?
Les élus, ils sont assez inquiets. Sur ce sujet-là, d'ailleurs, comme sur d'autres, on a une crise du logement global, mais on a une crise aussi du logement des fonctionnaires à l'intérieur de cette crise globale. Et ce que nous remontent les élus, qui, eux, sont confrontés également à du recrutement de fonctionnaires publics territoriaux, ou même, je dirais, dans leurs relations et dans leur impulsion sur le développement économique, puisque nous avons beaucoup d'élus qui s'investissent dans le développement et dans l'implantation d'entreprises. Ils sont tous assez conscients que ce sujet-là va être important. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a un énorme sujet sur le terrain. Ce sont des clientèles qu'on connaît bien, puisque vous savez, dans le positionnement historique, j'ai envie de dire, de Procivis, on a le contact avec le professeur des écoles, avec l'urgentiste, l'infirmier. Ce sont des clients que nous connaissons,
bien sûr,
à qui nous avons l'habitude de faire des propositions. Évidemment, je laisserai Karine, elle en parlera beaucoup mieux que moi sur le logement social, mais aussi de les inscrire, j'ai envie de dire, dans le parcours résidentiel. De les accompagner dans de la location privée et puis ensuite vers l'accession sociale. Et nous, ce que l'on constate, effectivement, c'est que le sujet est en panne aujourd'hui assez largement, avec beaucoup d'inquiétudes, j'ai envie de dire, qui se dégagent de ces personnes-là.
Est-ce que vous avez le sentiment, Philippe, que les élus locaux sont impuissants face à cette pression, cette demande?
Moi,
est-ce que vous avez l'impression parfois qu'ils sont un peu même désespérés, puisqu'ils sont harcelés chaque semaine dans leur permanence par des demandes de logement incessantes?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, nous sommes aujourd'hui dans des mécanismes qui sont tellement complexes.
C'est vrai.
Ils sont difficiles à résoudre facilement. Je pense que vous devez vous en rendre compte, monsieur Descroix, dans vos sujets. Mais on parlait par exemple du foncier. Moi, j'ai des fonciers disponibles que je peux rendre disponibles assez vite si on est capable de me dire de quel fonctionnaire on parle et de qui il s'agit. On peut construire très vite pour eux et on peut leur livrer un logement dans les 2 à 3 ans.
C'est la preuve qu'on peut, à l'instar de ce que vous disiez tout à l'heure, réparer véritablement cette demande.
Je pense que s'il y a une volonté, qu'on simplifie un peu les mécanismes, on peut sur nos territoires réparer assez vite. Nous, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle Immo de France. Hein. Le réseau Immo de France, c'est un réseau de gestionnaires.
Donc
on peut mettre à disposition les offres, on peut gérer, on peut vous accompagner sur des mandats locatifs, des mandats de vente, etc. Et en plus, on a prévu de le faire à des conditions préférentielles dans la convention que nous avons conclue avec l'État. Donc il y a beaucoup de moyens d'action, mais effectivement, il faut se simplifier la vie sur beaucoup de sujets.
Sans compter des mécanismes de garantie qui sont accessibles et gratuits pour certains personnes de la fonction publique, comme la garantie Visa, par exemple, du groupe Action Logement. Karine Julien-Warou, vous êtes l'une des rares femmes à la tête d'un groupe immobilier à envergure nationale, du groupe Polylogie. Vous œuvrez déjà depuis plusieurs années pour le logement des fonctionnaires. Comment vous ressentez, à l'instar de ce qui a été partagé, la question du logement de ces personnels, souvent qu'on a appelé d'ailleurs les personnels de première ligne?
Alors c'est vrai, quand on parle justement de ce type de personnel, on pense tout de suite personnel clé. Donc on en a parlé justement beaucoup pendant le Covid. Et on a souvent tendance à aborder ça côté logement abordable. Donc logement abordable, quand on parle de logement abordable, on passe souvent au logement social. Et effectivement, dans le logement social aujourd'hui, il y a une telle crise de la demande. Donc on a des fonctionnaires qui vont être en fait en face de personnes d'allo, de personnes qui vont être sur les réservataires, par exemple Action Logement, sur beaucoup de typologies. Donc c'est vrai qu'au niveau du logement social, on a une demande qui est vraiment extrêmement forte, mais d'une manière générale. Et ensuite, on parlait tout à l'heure du 5% du contingent préfectoral. Donc ça, c'est vrai que c'est un contingent important, mais qui souvent est mobilisé aussi pour d'autres urgences sociales. Donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de pouvoir trouver des demandes. Et donc l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est aussi pouvoir proposer d'autres offres. Outre le logement social, on peut aussi, et nous c'est ce qu'on fait...
Du marché locatif privé par exemple,
tout ce qui est non conventionné par exemple, tout ce qui est intermédiaire. On peut avoir aussi de l'offre d'accession sociale, de la vente HLM. On peut avoir aussi de l'accession privée. Et donc, c'est l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir justement monter ce partenariat pour pouvoir continuer, puisque nous, on fait déjà pas mal de choses sur certaines typologies, de pouvoir continuer justement à accompagner les fonctionnaires dans leur parcours logement et aussi à accompagner effectivement l'État sur ce sujet qui est extrêmement important, puisque quand on a personnel, que ce soit par exemple un policier ou un gendarme ou une infirmière qui est loin de son lieu de travail, alors qu'en plus souvent on est dans des horaires décalés où il n'y a pas forcément les transports, etc. C'est vraiment extrêmement compliqué et ça met beaucoup de tension dans leur relation eux après avec le travail, puisque effectivement ce poids qu'ils ont apporté est quand même très compliqué, donc c'est vraiment important pour nous.
Absolument, l'éloignement de l'emploi par rapport à la zone de l'emploi et surtout sur des professions très exposées comme celle-ci qu'on a appelées de première ligne, c'est un vrai sujet. Vous voulez intervenir, Guillaume Decroix?
Je suis sensible à ce que vous évoquez, parce qu'il y a des sujets qui sont simples en apparence et complexes.
Ah oui.
Les agents publics parfois dépassent les plafonds de ressources pour le logement social. Est-ce que vous évoquiez l'un et l'autre sur toute la gamme, dont le logement intermédiaire, dont le logement libre, est extrêmement précieux, parce que L'organisation réglementaire et législative est ainsi faite que dépassant les plafonds de ressources, ils n'ont pas accès au logement social. Donc ils sont hors du contingent préfectoral, mais malgré tout, le logement est cher pour eux, parce qu'on dépasse un peu.
Guillaume, je voudrais que pour nos auditeurs, vous nous expliquiez ce que c'est que le contingent préfectoral. On parlait de 5%, juste pour que les gens comprennent.
Oui, tout à fait. Alors, le contingent préfectoral pour chaque construction, les bailleurs sociaux ont une obligation de réserver une part du logement pour la fonction publique d'État.
D'accord.
Elle représente 5% de tout ce qui est bâti. Alors hier,
en production de logements
neufs. En production de logements neufs, et c'était d'accord. Des logements qui étaient fléchés, on les connaissait. On passe demain dans une logique assez différente de la gestion en flux, où finalement ce 5% qu'on avait identifié va devenir un pourcentage de 5% chaque année à proposer aux agents publics de l'État.
Donc ils ont été également les premières victimes de la chute de la construction neuve.
Chute de la construction neuve, arrêt de la rotation,
d'accord.
Donc égale plus d'offres. C'est d'accord. Mécanique et c'est d'une puissance d'accord. Incroyable.
Non, parce que il y a quand même une urine du sort hein, dans l'idée, donc il est temps de faire les choses. Je voudrais justement qu'on avance bien pour que ceux qui nous écoutent voient bien les choses. Ces partenariats, vous signez avec des grands groupes, Guillaume Decroix, envergure nationale. Qui font du logement social, qui font du logement intermédiaire, qui ont accès au marché locatif privé, qui d'ailleurs, je précise, logent 62% de locataires qui seraient éligibles au logement social. On a besoin du marché locatif privé. C'est ça que je voudrais faire passer. Et que sans les millions de petits propriétaires, Guillaume Decroix, on ne pourrait pas loger une grande partie des personnes qui sont d'ailleurs également issues de la fonction publique. Est-ce que ça veut dire, donc c'est le sens de ma question, que vous allez élargir votre spectre d'action en tant que délégué interministériel à d'autres organisations, d'autres réseaux, mais ça peut être par exemple des syndicats comme la FNIM, ou l'Union des syndicats de l'immobilier avec l'UNIS, ou de la Fédération des promoteurs immobiliers par exemple.
Alors je pourrais vous répondre oui, mais j'imagine que vous avez besoin que j'explique un peu. Oui. Ça va de soi. D'abord, je dois aussi rendre hommage à nos collègues pas loin d'ici de CDC Habitat, qui nous ont aussi très vite tendu la main pour qu'on passe une convention avec eux. Donc ça veut dire que, d'accord. En effet, je vais m'adresser à la place au sens général.
Mais vous avez compris Action Logement, y compris le groupe Action Logement.
Ah, alors, Action Logement, on va encore plus loin, c'est que la garantie visale héberge et profite déjà aux agents. Oui. Pourquoi pas réfléchir à une extension de la garantie visale? Pourquoi pas travailler sur d'autres processus avec eux? Alors, il faut que ça soit consensuel, mais l'idée n'est pas exclue. Et on y travaille, je ne peux pas en dire plus parce que c'est en gestation. Sur les petits propriétaires, moi j'ai une conviction profonde, c'est que loger un agent public en tant que petit investisseur, c'est l'investissement de notre vie, on a fait les opérations Pinel, Cellier, que sais-je. Je trouve que ça a un petit supplément de sens.
Absolument. Pour dire,
je contribue, vous savez, à mon petit niveau à loger un agent public. Et j'ai une conviction forte, c'est que ce même petit propriétaire contre une ressource régulière, donc un loyer payé régulièrement, ne serait-il pas prêt à, au fond, faire un petit effort de baisse de loyer par rapport à ce que le marché libre, totalement libre, pourrait offrir. Donc vous voyez que ça a du sens. C'est je loge un fonctionnaire, je fais un petit effort, j'ai peut-être un peu moins de ressources, mais j'ai quelqu'un d'abord qui signifie quelque chose, d'accord. En tant que locataire, oui. Et qui en plus a de la ressource.
Mais un petit effort, moi je vous entends, hein. Je vous entends. Je suis pas sûr que les petits propriétaires vous entendent de la même façon. Mais parce que ces propriétaires ont vu un impôt sur la fortune immobilière leur confisquer à peu près 22% de leurs ressources nettes, qu'ils ont vu une inflation normative qui a été multipliée par 5 en moins de 10 ans, et qu'à un moment donné, ils désinvestissent ces petits propriétaires. Je veux bien qu'ils fassent un effort. Mais vous savez, il y a une règle de base. C'est juste un commentaire. Hein. C'est du donnant-donnant.
D'accord.
Rétablissez, par exemple, une chose très simple. C'est par exemple le fait d'amortir un bien. Qu'on sanctuarise un statut du bailleur privé, personne physique ou morale. Je vous garantis que l'échange sera très positif vis-à-vis des propriétaires. On peut pas... Non, mais moi, j'entends très bien ce que vous dites.
Je comprends.
Mais j'aimerais avoir justement votre avis... avec Philippe et Karine ensuite.
Non, mais moi, je crois que ces principes de solidarité-là peuvent jouer à un moment donné. Oui. Moi, je pense que...
Mais est-ce qu'il faut pas qu'il y ait
effectivement, comme disait Karine, la crise du Covid, elle a quand même modifié beaucoup de choses,
d'accord.
Dans la perception de nos concitoyens sur les territoires. Et je pense que ces principes de solidarité-là... D'ailleurs, nous, on les exprime dans le réseau Procivis à travers des fondations,
bien sûr.
Qui se sont créées également. Et on voit qu'il y a un engouement autour de ces sujets-là. Par contre, je pense qu'il ne faut pas pour autant lâcher la proie pour l'ombre. Il faut en revenir à l'essentiel. Il faut être plus précis dans l'identification des besoins, de qui on parle, de quelle personne on parle. Et puis ensuite, il faut être beaucoup plus précis également sur le recensement et l'affectation du foncier. Si on fait ça et qu'on réussit à croiser très simplement cette demande avec la...
Mais comment on fait pour embarquer les petits propriétaires ? Sur Immo de France, vous avez beaucoup de petits propriétaires. Ouais. D'ailleurs, vous êtes l'un des...
On est le quatrième syndic français.
Absolument. C'est donc vous représentez d'ailleurs, vous représentez cette puissance française,
ouais,
la France des endormis, des oubliés, dont on se rappelle uniquement lorsque...
Oui, c'est vrai.
Ils sont une variable d'ajustement. Mais je ne peux pas dire autrement, parce qu'ils nous appellent et ces gens-là sont aussi en souffrance. Vous savez quel est le coefficient de détention en France immobilière ? Il est de 1,01. C'est-à-dire qu'en fait, on a son appartement et c'est tout. Donc en France, ce n'est pas une république de gros propriétaires, etc. C'est assez marginal. Et c'est l'élément protecteur, en fait, de la vie, bien évidemment. Comment on fait pour embarquer ? Je voudrais justement... Pour qu'on ait effectivement un effort et une solidarité nationale.
Alors c'est vrai qu'il y a une attente assez importante sur le statut fiscal du propriétaire, bailleur, etc. Vous en parliez tout à l'heure, ça c'est vrai. Mais par contre, nous animons des assemblées générales de copropriétaires très régulièrement. Polylogie contrôle Immo de France, Île-de-France. Et donc il y a également cette activité de syndic et d'animation de ces AG de copropriétaires. Et là, croyez-moi, vous voyez la France en direct, hein, dans les AG de copropriétaires. Il y a quelque
c'est
chose tout de suite d'assez...
Là, pour voir une sociologie du pays,
chose d'assez
vous
vivant.
Assistez à un truc. Voilà, faut éviter d'y aller avec un casque intégral.
mais c'est vrai que par contre, si on est capable de dire dans ces AG de copropriétaires qu'il faut, dans certaines copropriétés, faire un effort, et que quand un logement devient vacant, on a une liste de fonctionnaires publics ou de l'hospitalier ou de l'université de Bordeaux, par exemple, si je prends le cas de Bordeaux, et que je suis capable de dire dans une AG que ce logement doit le réserver, un pompier là qui vient de s'installer à Libourne, on a une très grosse base de pompiers qui vient de s'installer. Je pense que c'est pas quelque chose d'inatteignable. Voilà, mais il faut le faire effectivement dans un environnement qui a été simplifié pour tous ces
et qui a un équilibre,
ces propriétés qui présentent un équilibre parce que on aura vis-à-vis d'eux-mêmes peut-être envoyé un signal positif.
C'est important ce que dit Philippe, parce qu'en fait, les propriétaires aussi ont besoin d'un peu de reconnaissance. Voilà, qu'on dise ce que vous faites, c'est bien. Ok, bon, on vous donne rien, on vous a matraqué fiscalement, c'est pas grave, mais on vous aime bien quand même. Voilà, non, mais je caricature un peu, mais c'est ça. Je voudrais avoir une réaction de vous, Karine.
Il y a aussi un autre élément qui, à mon avis, est extrêmement important, c'est la stabilité. Le fait justement de pour être un petit propriétaire où souvent on a mis un peu de fonds propres, on a mis du prêt, etc., le fait d'avoir une réglementation qui évolue trop régulièrement, bah justement, ça enlève ce côté stabilité. Et aussi, on ne sait jamais ce qui va se passer, est-ce que le loyer que j'ai va suffire à rembourser le prêt, etc. Et quelle que soit la solution, effectivement, l'amortissement, ça serait vraiment une solution qui pourrait être très intéressante. Mais quelle que soit la solution, je pense que c'est important, c'est surtout le fait de la rendre un peu stable pour que de donner un peu de visibilité aux personnes physiques qui mettent tout leur épargne ou une partie de leur épargne dans un appartement. Et après, si on a ce côté stabilité fiscale et qu'en face, en plus, on a un locataire qui, lui, est aussi, a une stabilité aussi en termes de revenus, bah, je suis sûre que les deux, en fait, on peut réussir à embarquer pas mal de gens.
Oui. Le sujet dont on parle là, c'est pas un sujet de division des Français. C'est au contraire un sujet qui peut les rassembler. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles on a tous dans notre famille des fonctionnaires, on a tous.
Très juste.
Moi j'ai un frère qui est fonctionnaire, je vois à peu près de quoi on parle. Hein. Voilà. Donc je pense que c'est au contraire un sujet de solidarité que l'on peut créer, qui donnerait du sens et qui permettrait aussi de se remobiliser de manière plus globale, pourquoi pas.
Est-ce que c'est la première fois qu'on a un délégué interministériel dédié au logement?
C'est une création, absolument. Avant, si vous voulez, les politiques étaient menées par chaque ministère, plus ou moins bien selon les budgets dont ils disposaient. Et il y avait des actions sociales de proximité conduites par la grande DRH de la fonction publique qui s'appelle la DGAFP, mais qui relève du ministère de Bercy jusqu'à récemment, et qui donc avait des politiques sociales pour l'urgence, pour les logements temporaires. Mais c'était très émietté, il n'y avait pas une espèce de transversalité de l'action politique en la matière.
Si on peut vous faire passer un message, Guillaume Decroix, et je pense que les professionnels, et Karine l'a dit très justement, vous parliez, Karine Julien, de la stabilité. Vous prenez la police, vous prenez l'intérieur, vous prenez l'armée, ils sont régis par ce qu'on appelle les lois de programmation.
Oui.
Ces lois de programmation sanctuarisent une politique pérenne sur 5 ans, peut-être plus. La Constitution le permet. pourquoi ne pas imaginer de rétablir peut-être un commissariat au plan, que peut être une bonne idée. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un grand monsieur du plan qui s'appelait Lionel Stoneru, qui est le père d'Emmanuel Vargon, un grand monsieur. Et vous avez la possibilité d'envoyer un signal fort de confiance, que ce que dit Karine Julien est très juste. Un propriétaire, pour qu'il investisse, il s'inscrit sur un temps long. Et le lieu de vie, qui est l'acquisition de la résidence principale, c'est le lieu protecteur, c'est le marqueur social. Et le marqueur social, il peut se déliter, puisque plus on s'éloigne des bassins d'emploi. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a un lien entre la précarité ou l'isolement des bassins d'emploi, ou le fait qu'on quitte le radar social, en fonction du lieu où l'on habite.
De sa résidence.
Qui est d'ailleurs aussi parfois une punition, puisque je peux vous dire que quand vous habitez à Aubervilliers, par exemple, qui sont dans certaines cités, vous n'avez pas les mêmes chances d'accéder à l'emploi que quand vous habitez, par exemple, à Vincennes ou dans le 17e arrondissement. Et ça, c'est du vécu. C'est ce que nous disent aussi nos auditeurs. Est-ce que vous, dans votre fonction, vous pouvez ces messages-là, vous pouvez les porter en disant, effectivement, parce que pour une fois, l'État désigne un délégué interministériel pour le logement des agents de l'État, de la fonction publique. Je trouve ça génial.
Dans le cadre des échanges, c'est totalement ouvert. Je vais commencer d'abord par vous expliquer que nous discutons avec les partenaires sociaux qui portent, je dirais, la parole des agents publics. Et c'est un dialogue absolument consensuel. Hein, on est un petit peu comme Action Logement sur une forme de volonté de paritarisme. C'est d'ailleurs écouter le
Très
besoin
bien.
Des agents.
Bien.
La deuxième chose, c'est que quand on noue des partenariats, quand on discute avec des opérateurs, on ne va pas être que ceux qui vont prendre la prestation sans écouter la problématique. Parce que à partir du moment où on est embarqué ensemble au titre d'une convention, leur réussite, c'est la nôtre. Et la nôtre, c'est la leur. Vous parliez en effet de la représentation associative des petits propriétaires. Quel est leur besoin? Quelle est leur difficulté? C'est ce que vous évoquiez en creux.
Bien sûr.
Ça, je peux le capter. Je peux au moins en faire le compte-rendu auprès de mon environnement. Après, je ne vais pas m'élever au-delà de ma condition.
Je comprends.
Les messages, je peux les faire passer auprès de ceux qui vont me gouverner, c'est-à-dire les trois ministères du logement, de la fonction publique et des comptes publics. Au-delà, il y a des arbitrages politiques.
Ouais, vous êtes
j'ai la chance de ne pas avoir arbitré.
Vous êtes la tutelle de ces trois...
Absolument, la délégation sera placée auprès de ces trois...
Ça ne va pas être simple, hein.
Écoutez, je pense qu'il peut y avoir des convergences là-dessus. C'est-à-dire que la fonction publique sans des solutions logement, la démonstration est faite de cela. La fonction publique sans les comptes publics et sans l'élan politique, en quelque sorte, de ça, ça ne marche pas.
Alors, oui, Philippe, vous voulez rajouter
une chose également, on l'a peu évoqué, il y a un vrai sujet d'offre. Et dans le réseau Procivis, nous avons plusieurs acteurs. Alors évidemment sur le logement social, mais on a parlé du locatif privé, mais sur l'accession sociale, nous sommes capables de construire des logements qui sont parfaitement adaptés à la demande des fonctionnaires. Hein, que ça soit en collectif, mais que ça soit également en maison individuelle, où nous faisons des maisons compactes, des maisons abordables. Nous, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, on va loger cette activité-là dans une foncière locative que nous allons créer, et nous serons capables de louer des maisons à des familles fonctionnaires et qui auront 2-3 enfants, donc, qui savent qu'ils vont rester sur ce territoire-là 3, 4, 5 ans, peut-être avant de faire l'objet d'une mobilité. Donc ça, c'est assez important parce qu'on voit que le sujet de la mobilité géographique est souvent quelque chose qui les préoccupe, hein, et de savoir comment ils vont pouvoir à la fois s'installer, mais en même temps pouvoir partir facilement. Et donc, il y a plusieurs acteurs dans le réseau Procivis qui sont capables de construire ce type de logement à des prix très abordables et donc de quelque part cibler l'offre de construction que nous allons pouvoir faire, ce que vous ne trouverez pas chez certains des concurrents que nous avons évoqués tout à l'heure, qui effectivement n'ont pas ce type d'approche.
Non, mais c'est vrai, parce que
ancrage territorial est capable de nous permettre de cibler.
C'est aussi l'approche multipolaire que vous aviez. Mais je voudrais justement qu'on finisse cette interview, cette table ronde sur les projets concrets. Karine Julien, vous êtes sur des projets actuellement avec la gendarmerie, le CHU. Très concret. Hein.
Alors, l'ancrage local est extrêmement important parce que, effectivement, l'objectif, c'est vraiment d'être en adéquation avec la demande, justement, des différentes institutions. Donc, nous, on travaille avec différents types de structures. Par exemple, si on parle des gendarmes, là, on est en train de livrer une gendarmerie, mais outre la gendarmerie, on livre aussi tous les logements de fonction des gendarmes. Et donc là, c'est à Gisors, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important parce que justement, dans le cadre, si je prends le cadre, c'était en gendarmerie, Gisors, ça n'a pas forcément un côté très attractif. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de travailler sur la qualité des logements pour pouvoir justement permettre cette mobilité et avoir un plus dans le cadre de la mobilité. Donc on en a d'autres, on en avait marre, etc. Donc on travaille aussi avec les gendarmes sur ces sujets-là. Et puis on travaille aussi avec beaucoup avec tout ce qui est en lien avec le milieu hospitalier. Donc là, on a différents types de projets qu'on peut avoir. D'abord, on accompagne certains dans leur projet directeur, justement pour pouvoir leur schéma directeur pour accompagner le personnel. Dans ce cadre-là, on peut travailler avec eux pour faire de la réhabilitation et de la construction sur le patrimoine propre pour vraiment avoir une offre spécifique. Et puis, on a aussi des partenariats en ce qui concerne, tout à l'heure, je parlais des logements conventionnés, non conventionnés, je parlais aussi de l'intermédiaire. Et on a des partenariats justement pour pouvoir apporter une offre spécifique en non conventionné, en intermédiaire. On a aussi de l'accession, par exemple, sur l'accession sociale. Là, on a un projet où on est à côté d'un hôpital. Et en fait, on travaille avec la PHP pour justement ce projet soit proposé au personnel. Et on a vraiment différents types de projets comme ça. On fait aussi de la construction où on allie du logement classique, donc quand je dis classique, c'est famille, avec de l'étudiant, notamment étudiant médecine et paramédical. Donc en fait, on a vraiment des projets très différents. Et ce qui est important, c'est de le faire, vraiment cet ancrage local est important, parce que d'un endroit à un autre, on n'est pas du tout sur les mêmes sujets.
Ah, c'est extrêmement concret, hein.
Pour aller dans le sens que vous venez d'évoquer, il y a un besoin fondamental d'identifier le besoin. Hein, et je voudrais quand même rappeler qu'au mois d'avril dernier, il y a eu un comité interministériel où était présent le ministre du Logement de l'époque, Guillaume Kasbarian, et nous avons lancé des diagnostics territoriaux, dont l'un est sur la zone de Bordeaux, l'autre sur Dunkerque, pour aller au plus fin de l'analyse du besoin, pour justement que par rapport à vos programmes, à vos projets, il puisse y avoir une adéquation si on parle du besoin agent. Ces diagnostics vont être livrés prochainement, donc on pourra en faire une exégèse pour pouvoir ensuite se mettre en relation avec ça. Et ça tombe d'autant mieux qu'aujourd'hui, le ministre de la fonction publique va s'intéresser à ce sujet, je le souhaite, et en tout cas, les signaux m'ont été donnés dans ce sens-là, pour justement tirer le fruit de ça et que je puisse ensuite m'adresser à l'environnement, au marché, des bailleurs sociaux, des bailleurs privés, de tout l'environnement qui fait de l'offre de logement, pour au fond rapprocher l'offre de la demande.
Merci beaucoup. Je vous propose de nous quitter sur un jeu sympathique. Voilà, je vous propose. Je vais vous demander à chacun de me donner un mot, un adjectif qui qualifierait très spontanément les propos que nous venons d'échanger. Je vais commencer par vous, Karine. Un mot.
Durabilité.
Durabilité. Pour les petits propriétaires qui nous écoutent, ça a beaucoup de sens. Merci, Karine. Guillaume.
Sans hésitation, confiance.
Confiance. Philippe.
Cohésion.
Cohésion. Ah, bravo, parce que c'est vraiment... Parce que pour développer de la confiance et aller dans une direction de durabilité, encore faut-il développer une véritable cohésion. Et je pense que c'est bien le but de votre mission. J'étais ravi de vous avoir sur le plateau. Guillaume Decroix, vous êtes délégué interministériel pour le logement des agents publics. Vous êtes cordialement invité dans les studios parisiens de Sud Radio et de Radio Immo avec grand plaisir. On fera un dossier,
hein,
si vous y prenez. J'aime beaucoup votre façon d'approcher les choses. Je vous souhaite beaucoup de succès pour cette transversalité, cette première mission que vous avez, puisque c'est une première, un délégué interministériel. C'est un gros enjeu, et c'est l'enjeu pour le logement des Français et des fonctionnaires qui font tourner notre boutique, notre pays. Et il faut les en remercier. Ce que disait très justement Karine Julien lorsqu'elle travaille pour les gendarmes ou pour le monde hospitalier, on en a fondamentalement besoin et nous les aimons. C'est très important de leur envoyer aussi ce signal. Ce signal-là. Merci d'avoir participé à cette émission, Guillaume Decroix. Merci, un grand merci à Philippe Potiot, toujours professionnel, qui nous éclaire sur sa vision des choses. Je rappelle que vous dirigez la Nouvelle Aquitaine et Procivis, et vous avez en plus, je ne sais pas combien, une vingtaine de métiers à l'intérieur. Vous faites, voilà, c'est jubilatoire. Finalement, quand on fait ce qu'on aime et qu'on le fait avec passion. Un immense merci également à Karine Julien, présidente du groupe Polylogie. Merci beaucoup d'être passée par le plateau. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Polylogie, vous avez aussi toutes les informations, comme d'ailleurs Procivis en Nouvelle-Aquitaine, sur le site internet, bien évidemment. Vous allez voir, on fait beaucoup de choses et on œuvre au quotidien pour le citoyen, les citoyens français, qu'ils soient aussi dans la fonction publique ou pas. D'ailleurs, également. Merci à tous. Voilà, il est exactement 10h53. On enchaîne à partir de 11h avec nos prochaines tables rondes. Le podcast, bien sûr, comme d'habitude, est à récupérer sur notre application. Vous pouvez y aller, c'est gratuit. Et vous nous commentez, vous likez, toujours avec beaucoup de bienveillance. Prenez soin de vous, on se retrouve tout à l'heure.
Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.